franceinter.fr.
Et c'est la revue de presse avec Hélène Jouan. Hélène, je vous souhaite une excellente année et de nombreuses magnifiques revues de presse sur Inter.
Merci Pierre, excellente année à vous et à tous les auditeurs de France Inter, bien sûr.
On est le 1er janvier, Hélène, c'est forcément l'heure des vœux. On y va.
Chères Françaises, chers Français, je commencerai ces vœux en vous remerciant de m'avoir élue ce 31 décembre au soir, peu après minuit. Vous avez quand même élu une femme, lesbienne, intermittente du spectacle, ça donne de l'espoir. J'aurais aimé être aussi noire et musulmane, mais nul n'est parfait, bien sûr. Au moment de voter, la plupart d'entre vous étaient totalement sous et vous n'avez peut-être aucun souvenir de ce vote. C'est la chanteuse Océane Rosemary qui s'est prêtée au jeu proposé par Mediapart chaque année. Après Stéphane Hessel, Moncef Marzouki, Ariane Mnouchkine ou encore François Morel l'an dernier, c'est donc elle qui s'amuse à revêtir les habits présidentiels pour nous délivrer ses vœux de paix. Vœux très en phase avec les combats menés par la rédaction d'Edoui Plenel. Océane Rosemary poursuit « Nous venons, dit-elle, de remporter une bataille d'envergure. L'état d'urgence a fondu comme un château de sable. » En effet, l'algorithme conçu par les meilleurs services de l'antiterrorisme français pour détecter toute forme de radicalisation a échappé à ses créateurs. Du jour au lendemain, le logiciel a fait déchoir de sa nationalité Manuel Valls, qui aurait déclaré en pleurant à BFM TV « Je me sens comme un vieux chorizo ». L'algorithme a déclenché l'assignation à résidence des Le Pen et de nouvelles fiches S sont apparues, recensant tous les patrons, voyous, évadés fiscaux et fonctionnaires de police auteurs de contrôles abusifs, poursuit notre présidente d'un soir.
Bon, ça c'est pour rire Hélène, mais hier à 20h, François Hollande, le vrai président, a bien présenté ses vœux aux Français.
Et la presse ce matin, presse papier assez rare, faut bien l'avouer, retient deux phrases de cette allocution présidentielle. « Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme », a dit hier soir le président. Un discours de vérité plutôt salué ce matin par la presse, bien sûr, écrit Jean-Claude Souléry dans son édito de la Dépêche du Midi. Les querelles et les polémiques reviendront dans quelques heures et certains reparleront de ce qu'ils appellent le virage sécuritaire de François Hollande, qui n'est en définitive qu'un retour à l'autorité républicaine. Mais il ne faudrait pas, l'émotion passée, nous en retourner à nos batailles idéologiques sur des points-virgules comme si rien ne s'était passé. François Hollande a raison de tenir bon, conclut-il. Dans la montagne, Bernard Stéphan salue lui aussi ce discours en phase avec l'opinion publique. En d'autres temps, les Français y auraient vu des vœux sombres. Aujourd'hui, ils y voient des vœux de vigilance et de mobilisation qui correspondent à leur état d'esprit. Une vigilance qui s'impose évidemment partout en Europe. La presse allemande, Die Zeit, Die Welt ou Der Spiegel, fait ses unes ce matin sur les menaces d'attentats-suicides qui ont poussé les autorités à fermer quelques heures hier soir de gare à Munich. Et puis tenez, juste en passant, on apprend dans Le Parisien que Johnny Hallyday chantera le 10 janvier prochain sur la place de la République lors d'une cérémonie de commémoration pour les attentats. Il chantera, accompagné d'un seul guitariste, un dimanche de janvier, une chanson composée pour saluer la mobilisation populaire du 11 janvier dernier. Alors, on revient à François Hollande et à son deuxième engagement. Il y a un état d'urgence sécuritaire, mais aussi un état d'urgence économique et sociale. Alors, cet engagement-là laisse les uns et les autres beaucoup plus dubitatifs. L'urgence sociale, vraiment, s'interroge aujourd'hui en France Le Parisien, très sceptique face au flou des promesses présidentielles sur l'apprentissage ou encore la généralisation du service civique. Le Huffington Post voit dans ses promesses présidentielles une façon de jouer au donnant-donnant avec sa majorité. Faute de donner des gages en matière de sécurité à son camp, écrit le site, François Hollande a en revanche ardemment courtisé sa majorité en annonçant plusieurs mesures économiques qui devraient satisfaire les partisans d'un plan de relance keynésien. Raté, en tout cas si l'on s'en tient à la réaction de Jean-Luc Mélenchon à lire sur lefigaro.fr. Jean-Luc Mélenchon qui parle de double peine, l'écouter et devoir le commenter, parle évidemment de François Hollande. Résumons, dit-il, Hollande continue ce qui ne marche pas, le grand nombre va encore souffrir. Pour Mélenchon, 2015-2016, même combat, semble-t-il.
Il y a les vœux du président et ceux des Français, Hélène, dans la presse ce matin.
Recueillis par Le Parisien, ceux de 18 personnalités de tous les horizons de la société vont à peu près tous dans le même sens. Retrouver notre union dans la joie pour le grand rabbin de France, plus de bienveillance, professe le cardinal André XXIII. Que notre ferme détermination éloigne de notre horizon la terreur fanatique, poursuit Dalil Boubaker pour les personnalités du monde religieux, quand Alexis Grus veut lui des mots tendres pour 2016. Ouverture aux autres, tolérance, mais aussi ambition retrouvée, solidarité, réenchantement de la démocratie et attention enfin portée à l'état de la planète. Ce sont toutes ces valeurs qui guident le choix des palmarès retenus par plusieurs de vos magazines pour ouvrir cette nouvelle année. Alors par exemple, l'hebdo chrétien La Vie qui dresse les portraits de ceux qui vont nous faire aimer 2016. On y retrouve pêle-mêle une chercheuse qui nous prédit la renaissance de l'Afrique, Thomas Pesquet, ce 10e Français qui va partir dans l'espace en novembre prochain, Helen Clark, l'ex-premier ministre de Nouvelle-Zélande qui pourrait bien succéder à Ban Ki-moon à la tête de l'ONU, Anthony Bélanger nous proposait Ségolène Royal il y a quelques instants, mais visiblement la vie penche plutôt pour Helen Clark, ou encore le chef du gouvernement de l'État Delhi en Inde qui lutte contre la corruption et qui est aujourd'hui celui qui prend des décisions radicales pour mettre fin au smog toxique qui asphyxie son État. Dès aujourd'hui, par exemple, la circulation alternée est mise en place à New Delhi, la capitale la plus polluée du monde.
On termine le juin avec votre contribution à une nouvelle et une meilleure marche du monde en 2016.
Contribution puisée dans Timbre Magazine. On reçoit vraiment des choses formidables quand on fait la revue de presse à France Inter. Vous savez que l'année qui s'ouvre ne manquera pas de dossiers sensibles en matière diplomatique. Entre la mise en œuvre effective de l'accord signé à Paris pour limiter le réchauffement climatique à la très difficile résolution du conflit syrien, en passant évidemment par la crise des migrants qui met à mal la cohésion de l'Europe, il y a du boulot et j'ai trouver effectivement dans Timbre Magazine une idée pour aider à pacifier les relations entre dirigeants. Ce magazine de la philatélie nous narre l'étonnant cadeau de Staline à Roosevelt. On est au moment de la conférence de Yalta, février 45. Staline reçoit Churchill et Roosevelt pour discuter de la poursuite de la guerre. Il est en position de force, les troupes soviétiques sont à 70 km de Berlin. Mais ça ne l'empêche pas, explique le magazine, de déployer des trésors d'imagination. Un, pour espionner les conversations de ses hôtes. Deux, pour séduire Roosevelt. Et il va jouer sur la corde sensible, la philatélie. Le président américain est en effet collectionneur depuis l'âge de 9 ans. On dit qu'il emporte partout sa collection de timbres dans un petit coffre en bois et que la nuit, il passe de longs moments à examiner ses timbres du monde entier. Alors le petit père des peuples va tout faire pour lui trouver des timbres exceptionnels. C'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de timbres à l'époque en URSS dont le sujet se réfère directement à l'Amérique. Mais il va finir par tomber sur la perle rare. Un timbre à l'effigie d'un pilote fait héros de l'Union soviétique en 1935 et qui la même année sera le premier à effectuer le vol Moscou-San Francisco par le pôle Nord. Alors ce bloc de quatre vignettes a-t-il une influence sur les relations entre les deux hommes ? Timbre Magazine reconnaît que l'histoire garde sa part de mystère. Enfin voilà, un petit cadeau avant d'engager de grandes négos. C'est peut-être pas bête pour cette nouvelle année, Pierre. Et